De masse, oui. Elles seront probablement prêtes dans les semaines à venir. Il y a tout de même un gros travail de recherche derrière ces sujets. Je vous invite aussi à me proposer des sujets technologiques que vous aimeriez qu'on aborde à l'émission. Pour me rejoindre, c'est simple, le site web de l'émission, regardtechno.com, et la page Facebook de l'émission sur facebook.com/regardtechno. Avant de commencer, je tiens à mentionner que cette émission est rendue possible grâce au soutien d'Alice Media, qui fournit des sites internet aux entrepreneurs québécois depuis 2011. Visitez le alicemedia.ca pour plus de détails. Alors, on se transporte en 1996 à l'université Stanford, où deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, créent un algorithme de recherche en utilisant le langage de programmation Python qu'ils nomment Backrub. Cet algorithme classe les pages qu'il rencontre selon le nombre de liens qui pointent vers cette page, qu'on appelle en anglais des backlinks, d'où le nom Backrub. Après avoir testé leur nouvel algorithme, ils réalisent rapidement que le nombre de pages que leur algorithme pourrait potentiellement rencontrer était presque infini. Ils décident donc de nommer leur moteur de recherche Google, en l'honneur d'un des nombres entiers les plus grands connus à l'époque, le Google, qui s'écrit 1 suivi de 100 zéros, ou 10 exposant 100 pour faire plus court. 2 ans plus tard, le duo incorpore Google, qui est déjà le moteur de recherche le plus utilisé. Google devient alors célèbre pour ses techniques de gestion des ressources humaines très progressistes. Mais malgré la façade de cafétéria 5 étoiles gratuite, de murs d'escalade et de nappes pour faire la sieste au travail, de nombreuses poursuites montrent que Google crée un environnement de travail malsain. Un environnement de travail surcompétitif, des heures de travail interminables, une culture de méfiance où l'entreprise espionne les communications de ses employés et même des accusations de sexisme. Malgré tout cela, le succès de Google permet à ses ingénieurs de travailler sur des projets personnels. Donc, chaque ingénieur a quelques heures d'allouées à chaque semaine pour travailler sur des projets personnels qui vont néanmoins rester la propriété intellectuelle de l'entreprise. Plusieurs grands succès de Google ont démarré en tant que projets personnels, tels que Google News en 2002, Gmail en 2004, Google Maps en 2005, Google Chrome en 2008 et le moins populaire Google Plus en 2011 qui a été définitivement fermé en avril 2019. On se souvient là, que Google Plus était la tentative de Google de créer un réseau social avec des cercles au lieu des posts. C'était assez lugubre, ça n'a jamais bien fonctionné. Donc, un des enjeux par rapport à Google Inc., c'est les monopoles et l'établissement de barrières à l'entrée ou de lois antitrust. Donc, Google, rapidement, là, commence à faire face à des poursuites antitrust dans différents États. Et là, il y a plusieurs preuves. On se souvient là, des lois antitrust. C'est finalement, en situation de monopole, utiliser sa situation de monopole pour établir des barrières à l'entrée à des compétiteurs potentiels. Ça, c'est illégal. C'est des pratiques déloyales. Et Google, mais il y a plusieurs preuves là, qu'on peut voir tous les jours qu'ils le font. Par exemple, depuis 2007, le premier résultat de recherche dans Google est toujours Google Maps. Donc ça peut sonner anodin, mais depuis 2007, MapQuest, le compétiteur de Google Maps, a perdu plus de la moitié de son trafic. Donc on voit que Google favorise ses produits. Donc, Google favorise vraiment ses produits. En 2015, devant l'avalanche de poursuites, Google décide de se réincorporer, donc de faire une réorganisation et de créer Alphabet Inc. Pourquoi ils ont fait Alphabet Inc? La raison donnée dans les communiqués de presse est pour rendre leurs états financiers plus facilement lisibles pour les investisseurs. Bon, ça c'est, mais toute l'information était quand même là dans les états financiers de Google Inc. Une autre théorie, c'est pour faire tomber les poursuites antitrust en Europe. Donc, jusqu'en 2015, Google faisait face à énormément de poursuites antitrust. En fermant Google et en le réincorporant et en ouvrant Alphabet Inc., les avocats auraient pu prédire que plusieurs de ces poursuites-là seraient tombées. Il y a aussi d'autres théories, telles que l'évasion fiscale. Google, ben, l'Alphabet Inc., finalement, lorsqu'on voit où elle déclare ses profits, elle déclare la majorité de ses profits aux Bermudes. Donc, peu importe là, que ce soit en Union européenne, au Canada, aux États-Unis, les profits que Google engrange, il en envoie une grosse partie aux Bermudes pour ne pas les déclarer, tout comme Amazon, d'ailleurs. Donc, ça, c'est plusieurs théories pour lesquelles Google aurait fondé Alphabet en 2015. Cette théorie-là ne tient pas vraiment la route parce que les poursuites antitrust ont rapidement rattrapé Google, qui a finalement été rattrapé Alphabet, la nouvelle entité, qui a finalement été déclarée coupable en Europe 2 ans plus tard, après la fondation d'Alphabet. Même chose pour l'évasion fiscale. Si on regarde les tactiques utilisées par Alphabet Inc., c'était un peu les mêmes qui étaient utilisées par Google. Donc, pourquoi refonder Alphabet Inc.? Ça reste nébuleux. Toujours est-il qu'Alphabet Inc., maintenant, c'est 16 entités, plus ou moins connues. On a évidemment la pointe de l'iceberg. avec Google, Google le moteur de recherche, ses services sur Internet tels que Gmail, YouTube, le cloud aussi, qui est vraiment une vache à lait pour Google, merci. On a le service YouTube, oui, et le système d'exploitation mobile Android. Donc tout ça ensemble là, qui rapporte des profits d'environ 57 milliards de dollars l'an dernier. Et de ces 57 milliards de dollars-là, le cloud, on a rapporté 3,8. Donc le cloud de Google, c'est vraiment là, qui est vraiment en grosse expansion à l'intérieur des revenus de la maison Google. On regarde les 16 autres entités qui composent Alphabet vraiment rapidement. Donc il y en a quelques-unes qu'on connaît. Google Nest, la filiale domotique pour les maisons. Google Fiber pour réseau de fibre optique. On a Loon, qui sont les ballons Wi-Fi, qui est un projet de ballons Wi-Fi pour donner de l'Internet à des régions sous-développées. Dandelion Energy, qui est une acquisition qui est dans la géothermie. On avait Google Car, qui maintenant se renomme Waymo, qui sont un service de voiture autonome. Les Sidewalk Labs, qui s'occupent d'urbanisation, utiliser la technologie pour l'urbanisation. Google a aussi 4 fonds d'investissement ou incubateurs, donc Jigsaw, qui est un think tank d'incubateurs, c'est un think tank et un incubateur, merci, pour essayer d'utiliser la technologie pour régler les problèmes de société. Donc ça, c'est vraiment un grand... ça se veut très noble. On parle de problèmes de société tels que la corruption, l'extrémisme, le terrorisme, le blanchiment d'argent, et j'en passe. Donc Jigsaw qui veut régler les problèmes du monde. Google X, qui est un laboratoire de recherche sur ce qu'on appelle les moonshots, qui se traduira en français par des paris risqués, qui sont un peu des entreprises. Il y en a une sur 1 million qui va marcher, mais celle qui va marcher va rapporter énormément. Donc il y a énormément, il y a beaucoup de projets qui sont des paris risqués finalement. Google Car a commencé dans cet incubateur-là, donc la voiture autonome. Lorsque Google a commencé ses recherches là-dessus, là, ils l'ont mis dans Google X, le laboratoire de recherche sur les paris risqués. On a Capital G, un fonds de placement, et Google Ventures, qui est un peu le fonds ange, le fonds de placement destiné à investir dans les startups. On a aussi la face cachée de Google, donc des entreprises qui sont un peu moins nobles. Respectent-ils même leur slogan « Don't be evil » ou « Ne faites pas le mal » parce que oui, le slogan de Google, c'est officiellement « Don't be evil ». Une espèce de manière de se rappeler et d'utiliser leur pouvoir pour le bien, mais ça va être à vous de me dire si les prochaines entreprises utilisent vraiment ce pouvoir-là, respectent vraiment ce slogan-là. Donc on a Chronicle Security, société spécialisée dans la cybersécurité, défensive oui, mais aussi offensive, qui travaille avec le Pentagone. On a Wing, un service de drones qui, jusqu'en 2018, travaillait avec le Pentagone à faire des drones photographiques. On a DeepMind Technology, qui est de la recherche en intelligence artificielle et qui, lui aussi, jusqu'en 2018, travaillait avec le Pentagone. Pourquoi ça l'a cessé? Eh bien, en 2018, il y a eu un mouvement de protestation de la part des employés de Google qui ont mis en scène un walk-out des bureaux de Google pour protester contre Google qui travaillait avec le Pentagone. Ces gens-là voyaient, n'avaient pas le droit d'en parler, mais voyaient les projets, le genre de projets sur lesquels Google travaillait avec le Pentagone. Ça leur a tellement fait peur qu'ils ont dit non, on refuse de rentrer au travail et de travailler pour finalement le Pentagone. Donc, Google a décidé de mettre fin à ses contrats avec le Pentagone en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que Google continue aussi à travailler avec d'autres États tels que la Chine. Donc, DeepMind Technology, qui fait de la recherche en intelligence artificielle, travaille encore avec la Chine, mais ne travaille plus avec le Pentagone. Et ça, là, il y a beaucoup de politiciens américains qui le reprochent à Google. Ce que les employés de Google répondent, c'est que le genre de projet sur lequel ils travaillaient avec le Pentagone, c'était beaucoup plus extrême que le genre de projet avec lequel ils travaillent avec l'armée chinoise. Une autre polémique par rapport à l'intelligence artificielle, beaucoup plus récente, est lorsque leur Chief Ethical AI, donc leur officer, donc leur directrice éthique pour l'intelligence artificielle, Timnit Gebber, s'est fait licencier l'an dernier après avoir écrit une lettre ouverte pour se plaindre des problèmes de classification des femmes et des minorités ethniques dans les outils d'intelligence artificielle. Ces outils d'intelligence artificielle-là sont de plus en plus utilisés par les gouvernements et les forces de l'ordre à travers le monde. Et bien, ils sont vraiment, vraiment mauvais, ou finalement, ils ont un biais contre les minorités ethniques et les femmes. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel elle s'est plainte et elle a perdu son travail suite à ça. Ça leur a amené vraiment un gros blacklash, un gros mouvement de protestation contre Google. Et ça, c'est arrivé uniquement l'an dernier, là. Ce qui est important de noter aussi, c'est que Timnit Gebber était une femme, était une femme membre d'une minorité visible. Donc ça l'a encore plus fait mal à l'image de Google, là, de licencier cette femme membre d'une communauté ethnique. parce qu'elle s'est plaint que ce sur quoi elle travaille classifiait mal les femmes et les minorités ethniques. Et c'était quand même là, leur officier en charge de l'éthique pour l'intelligence artificielle. Donc, c'était exactement son rôle de sonner l'alarme sur ces sujets-là. Mais bon, Google ne l'a pas pris. On continue avec les autres entités d'Alphabet Inc. On a Calico et Life Science, qui sont deux entreprises dans les biotechnologies. Donc les biotechnologies, ça c'est vraiment quelque chose, et surtout les données dans les biotechnologies, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus intéressant et qui prend de plus en plus de place dans les médias et dans les préoccupations des gouvernements. Par exemple, Google offre des services de storage et d'analyse de données médicales de masse. Donc ça, ça peut paraître anodin, mais Google a parti le projet Nightingale dans 21 États américains, où 21 États américains vont storer les données médicales de toute la population sur des serveurs Google et vont autoriser Google à faire de l'analyse de données médicales. Donc ça, et ça, sans en parler à la population, sans faire d'appel public, c'est juste et tout le monde est obligé de faire partie de ça finalement. Donc ça, c'est un projet qui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux éthiques face à ça. Je peux vous dire aussi qu'au Québec, il y a un projet similaire qui est fait pas avec Google, mais avec plusieurs partenaires de recherche où la RAMQ partage ses données anonymisées avec différents groupes de recherche en échange d'ententes de confidentialité, mais toujours. Moi, j'ai eu la chance là, de travailler avec des groupes qui avaient accès à ces données-là, justement, dans le passé. Et je peux vous dire, ça, c'est fait sans le consentement des utilisateurs. C'est vraiment la RAMQ qui va prendre la totalité des données anonymisées des Québécois et partager ça avec un partenaire de recherche pour faire de l'analyse de données médicales de masse. Donc, essayer de trouver des tendances à travers toutes ces données-là. L'utilité est vraiment là, mais c'est finalement l'oversight où c'est qu'il n'y a aucun consentement qui est donné finalement pour ce partage de données-là. Donc, voilà un peu pour Google. On va prendre une petite pause et on vous revient avec les nouvelles. Alors, bienvenue, nous sommes de retour avec vos actualités techno. Alors, en vrac, parlons de quelques actualités techno qui touchent les réseaux sociaux. On commence en France avec Glyph, le réseau social créé et lancé en 2019 en France. C'est une application qui permet de gérer sa bibliothèque virtuelle. Donc, on prend tous les livres qu'on a lus et on les met un peu sur cette application-là. Ça permet aussi de partager ses expériences de lecture avec d'autres utilisateurs. Lancée en France en 2019, l'application compte aujourd'hui 319 000 utilisateurs actifs qui partagent entre eux leur expérience de lecture. Ces utilisateurs-là, ces 310 000 utilisateurs-là, ont partagé près de 11 millions de livres entre eux. Donc, c'est vraiment un réseau social à surveiller. On continue maintenant avec Clubhouse, qui est une application spécialisée dans les petits contenus audio. Donc, c'est finalement des petits contenus audio que les utilisateurs se partagent entre eux. Le gendarme français des données personnelles, le CNIL, a ouvert une enquête sur la manière dont Clubhouse utilise les informations privées de ses utilisateurs. Donc, si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous avez vu que l'utilisation des données personnelles par les médias sociaux, c'est vraiment quelque chose sur c'est vraiment un problème sur lequel les gouvernements commencent à s'attaquer. Et donc, le gendarme français des données personnelles, le CNIL, s'attaque à Clubhouse. On continue maintenant avec TikTok. Donc, on sait que TikTok a connu quelques problèmes aux États-Unis sous la présidence Trump. Son avenir était même très incertain. YouTube, propriété de Google, a même décidé de lancer Shorts aux États-Unis, qui est un média social qui est exactement identique à TikTok, permet de partager des petites vidéos. Lors de sa version bêta, lors de sa version test en Inde, il a atteint 6,5 milliards de vues par jour. Donc 6,5 milliards de vidéos qui étaient vues par les utilisateurs en Inde. Donc c'est un très grand succès. Les autres chiffres, tels que le nombre d'utilisateurs, n'ont pas été partagés du bêta test, mais YouTube et Google nous disent qu'ils vont partager les chiffres américains parce que là, c'est le lancement officiel de Shorts. Donc quelque chose à surveiller. On nous dit aussi que le déploiement au Canada devrait suivre bientôt. Plus près de nous à Montréal, Amazon ouvre un studio de jeux vidéo. Donc, après que Google ait décidé de s'abstenir de lancer un studio de jeux vidéo à Montréal, on se souvient que Google regardait pour son projet studio de jeux vidéo, avait beaucoup regardé Montréal, ça en avait déçu plusieurs lorsqu'ils avaient décidé de rester aux États-Unis. Mais maintenant, Amazon, eux, ont décidé de s'installer ici et ils ont pris quatre anciens d'Ubisoft, Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Rémy et Romain Rimoc, donc des anciens des studios Ubisoft Montréal, pour ouvrir le nouveau studio Amazon de jeux vidéo à Montréal, donc qui devrait amener quand même beaucoup d'emplois ici à Montréal. Israël, maintenant, Israël va allouer 60 millions de dollars à la création d'un ordinateur quantique. Donc, Israël qui veut être technologiquement et en matière de défense, qui veut vraiment être à l'avant-garde des nouvelles technologies, va investir 60 millions de dollars pour la création d'un ordinateur quantique. C'est quelque chose de très intéressant parce que dans les semaines à venir, je prépare un épisode sur les ordinateurs quantiques et on va voir que les qubits, donc la mesure avec laquelle un ordinateur quantique peut faire la mesure de puissance pardon d'un ordinateur quantique est très très importante parce qu'il y a des problèmes que nous sommes très très près de résoudre, nous sommes à quelques qubits de les résoudre et cet ordinateur là voyez-vous pourrait résoudre des problèmes de 30 à 40 qubits l'ordinateur de 60 millions de dollars qu'Israël veut construire. Donc pour mettre ça en perspective, je propose de suivre notre épisode sur les ordinateurs quantiques qui va venir très très bientôt. Alors on fait une courte pause et au retour notre segment en profondeur. Nous sommes de retour à Regard Techno, donc nous allons voir notre segment en profondeur. Bienvenue à En profondeur, le segment où nous allons plus en détail sur un élément que nous avons vu un peu plus tôt dans l'émission. Donc aujourd'hui, notre émission sur Google, le moteur de recherche, nous avons un peu abordé les robots d'indexation. Les robots d'indexation qui sont finalement ce qui fait tourner les moteurs de recherche, ce qui est le moteur de recherche. Un robot d'indexation, ce sont des scripts automatisés qui parcourent le web ou un réseau donné pour y extraire des données pertinentes. C'est ce qu'on appelle un outil d'extraction de l'information. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est un des plus populaires et qui est utilisé par les moteurs de recherche. Leur fonctionnement est simple. On part d'un panier d'adresses Internet ou même d'une seule adresse qu'on appelle l'adresse pivot. Le robot d'indexation visite la page à cette adresse et ajoute tous les hyperliens qui se trouvent à cette page. Il les ajoute à son panier d'adresses à visiter. Il visite ensuite les nouvelles adresses pour récolter des hyperliens, et ainsi de suite. Le web étant essentiellement composé de pages interconnectées par des hyperliens, la théorie est que le robot va finir par faire le tour du web après avoir visité toutes les pages qui y sont indexées, et finalement, il recommencera le tout lorsqu'il va retrouver son adresse pivot. Les robots d'indexation étaient populaires bien avant Google, mais l'innovation des robots d'indexation de Google, qu'on nomme les Googlebots, c'est l'algorithme de recherche Python qu'on appelait Backrub, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc Backrub est le premier robot d'indexation, le premier Googlebot. Et ce que Backrub faisait, l'innovation derrière Backrub est la manière dont il ordonnait les résultats. En utilisant le nombre d'hyperliens qui pointent vers une page pour juger de son importance. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant l'autorité du nom de domaine. Donc, plus il y a de pages qui lient vers votre page web, Google va assumer que cette page-là est plus importante, donc il va la mettre en premier dans les résultats de recherche. Ça, c'est ce qui était vraiment nouveau. C'est pas comme ça avant là, qu'on classait les pages. C'est vraiment c'est cette petite innovation qui a fait tout le succès de Google. J'aime beaucoup les robots d'indexation. J'ai personnellement beaucoup travaillé avec les robots d'indexation. Ce sont des scripts avec un potentiel infini qui peuvent mettre de l'ordre dans le chaos des données créées chaque jour. Pour vous mettre en perspective, en ce moment, il y a 2,5 quintillions d'octets de données qui sont produits par les humains à chaque jour. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme. Et c'est un chiffre qui monte à chaque mois. C'est quelque chose qu'on peut aller voir sur Internet. C'est quelque chose qu'on peut suivre à chaque mois. Donc, la somme de données créées par les humains juste en une journée. Et pour s'y retrouver, on utilise des robots d'indexation. J'ai d'ailleurs fait breveter des robots d'indexation qui fonctionnent avec la technologie d'analyseur de paquets, plus connue sous le nom de data sniffing. Donc en utilisant le principe d'un robot d'indexation avec le data sniffing, plutôt que de rechercher à travers des archives telles que le web, on s'entend que les pages web ou notre internet c'est finalement un peu des archives de pages qui ont été rédigées un peu plus tôt, ces robots d'indexation-là, recherche des informations dans des protocoles de communication directs tels que les courriels ou les réseaux téléphoniques de voice over IP. Donc ça, c'est un projet dont j'ai été très fier, de des robots d'indexation sur lesquels on a travaillé. Sinon, les robots d'indexation, il y en a plusieurs. On peut en avoir pour des images. Googlebot, ils ont d'ailleurs des robots d'indexation spécifiquement pour les images. C'est le service qu'on connaît en tant que Google Images. Ça peut être la même chose pour des vidéos. Donc, toutes sortes de choses. On peut vraiment programmer ces robots d'indexation-là pour aller chercher ce qu'on veut dans le chaos de données de l'Internet. Donc, on va y aller avec quelques conseils SEO. Je voudrais conclure le segment en profondeur avec plusieurs conseils SEO. Des conseils SEO, Search Engine Optimization, c'est pour s'assurer que votre site Internet arrive au top dans Google, donc en haut des résultats, donc il y a un bon rang dans les résultats de recherche pour des noms de domaines ciblés. Avant de commencer, je veux souligner le soutien d'Alice Media à la réalisation de cette émission. Alice Media qui vous propose des solutions d'hébergement web pour votre site Internet sur des serveurs situé ici même au Québec pour moins de 9$ par mois. Plus de détails, allez au alicemedia.ca/hébergement. Vraiment un bon service là, pour tous les web designers ou n'importe qui a son propre site Internet. On va continuer avec quelques conseils pour que votre site Internet arrive au top des résultats dans Google. Donc, le premier conseil que je vous donnerai, c'est par rapport à l'algorithme de Google, le Backrub. Donc, je vous expliquais un peu plus tôt le principe du nombre d'hyperliens qui doivent pointer vers votre page pour juger de son importance. Donc, le conseil qui va avec ça, c'est de s'assurer qu'il y a énormément de pages qui contiennent votre lien. Donc, vous devez aller mettre votre lien partout. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. Pour commencer, il y a beaucoup d'annuaires gratuits. Je pense à Page Jaune, il y a son équivalent anglophone Yellow Pages, Yelp. C'est tous des endroits où on peut aller pour mettre son lien sur Internet et ça augmente l'autorité de votre nom de domaine et ça augmente où vous allez être en termes de résultats sur les moteurs de recherche. Donc le premier conseil, c'est vraiment mettez votre lien partout. Mettez votre lien partout, faites des échanges de liens avec d'autres sites Internet, allez voir des annuaires. Si vous êtes à Montréal, dans les quartiers, la plupart des quartiers ont des associations de commerçants qui peuvent publier votre lien, donc assurez-vous d'être là. Mettez votre lien partout, partout, partout. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les médias sociaux pour augmenter le nombre de liens qui mènent à votre site web et ainsi créer un buzz autour de votre marque. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. Ouvrez-vous plusieurs comptes de médias sociaux par rapport à votre marque, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, même un compte TikTok si vous pouvez. Donc le but, c'est d'avoir plusieurs comptes de médias sociaux et d'avoir des liens qui arrivent sur ces comptes-là un peu en même temps ou très près les uns des autres. Donc si aujourd'hui vous décidez de mettre un de vos services ou quelque chose que vous avez publié sur votre site web de l'avant, vous le mettez sur vos médias sociaux, vous le mettez sur chacun de vos comptes de médias sociaux en même temps, et là Google perçoit cette information-là et il voit qu'il y a un buzz autour de votre marque à ce moment-là. Ce buzz-là est interprété comme étant de la pertinence et ça va augmenter votre résultat sur Google, donc vous allez avoir un meilleur résultat pour des mots-clés donnés. Ça aussi c'est bon parce que ça marche aussi avec le premier conseil, le fait d'avoir plusieurs comptes de médias sociaux, ça augmente le nombre de liens que vous allez avoir sur Internet et ça augmente la pertinence de votre nom de domaine. Quelque chose d'intéressant aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est faire la liste des mots-clés pour lesquels vous voulez sortir en premier. Et ça, mais c'est intéressant, on se demande notre public cible, quels sont les mots qu'ils vont chercher lorsqu'ils vont chercher des gens comme moi. Donc si vous êtes un plombier, bien, ça serait des trucs comme plomberie, allergies, un problème de drain, des choses comme ça. Donc, on en fait tous la liste. Si vous êtes un artiste avec un portfolio en ligne, quel genre d'art est-ce que votre public cible va aller chercher? Dans quelle catégorie êtes-vous? Donc, on fait des listes de mots-clés comme ça pour lesquels on veut sortir. Parce que si on n'a pas nos objectifs, si on n'a pas notre liste de mots-clés, ça va être beaucoup plus difficile de faire le travail. Par la suite, on prend ces mots-clés-là et pour s'assurer qu'ils soient vraiment, vraiment pertinents, mais il y a deux choses. La pertinence des mots-clés sur Google est évaluée par leur positionnement et leur répétition. Donc, leur positionnement, il y a des endroits dans la page, il faut les mettre dans les titres, dans la description de la page. C'est des endroits où Google va penser que les mots qui se situent là sont plus importants qu'ailleurs. On a aussi leur répétition. Donc, il faut s'assurer que les mots qui sont les plus importants soient répétés le plus souvent dans la page. C'est-à-dire que c'est pas le nom de votre commerce que vous devez répéter, c'est pas le nom propre, mais vraiment qu'est-ce que vous faites, quels sont les mots que les gens vont chercher pour aller vous trouver. Et finalement, il y a l'adéquation entre les deux. Les mots-clés qui sont les plus répétés sur la page doivent être les mots-clés en titre, et ça va vraiment là, propulser ces mots-clés-là pour vous donner un avantage par rapport à vos concurrents, être vraiment le premier vraiment les premiers dans Google. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut cette édition de Regard Techno. J'espère que vous avez aimé ça. Pour nous joindre, pour écouter les anciens épisodes, ceux qui n'auraient pas écouté les anciens épisodes, je propose d'aller sur regardtechno.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page web, facebook.com/regardtechno. J'aimerais remercier tout le monde ici à Radio Centre-Ville et j'aimerais remercier mon technicien de production, Amine Abal. Et moi, je vous dis merci et à la semaine prochaine.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM, que je t'aime.
Oh, le bonhomme a pris sa décision, ce sera encore classe et la magie de Noël au palace, 17-17, le Corbusier à Laval. Demandez le programme. Qui, cette année, fait une offre VIP extravagante? Service de valet, souper, 5 services aux fruits de mer, open bar ouvert, espace sécurisé pour seulement $250. Porte ouverte à 7h du soir. Attention, porte pour VIP 7h du soir. À la générale, des prix abordables, 50 en octobre, 60 en novembre, 80 en décembre, 100 à la porte. Porte ouverte à 10h du soir. Attention, pour la générale, les portes sont ouvertes à 10h du soir. Les billets dans tous les magasins et sur Eventbrite. Infos et billets, 514-661-0981, 895-2277. Classe, la magie de Noël au Palace Laval, le 20 décembre. Commandité par Cam Transfert, Magnus Poirier, Maître Suzy Jean Notaire, Restaurant Stivana. Une production extravagante.
Alors, c'est Café Nol n'a pas annoncé tout le monde à la Ronde Badet dans Montréal. Donc, autre activité qu'a fait dimanche 14 décembre à partir de 5 de l'après-midi pour arriver jusqu'à 8 du soir. Adresse là, c'est 11440 rue Etier dans Montréal-Nord. 11440 rue Etier, Montréal-Nord. On a bien en pile monde qui a venu pour banon coup de main faire de l'activité. Ça, on goûte autant d'activité. Ils ont brassé l'idée. On a besoin tout le monde. Pas seulement des militants à la Valasse. On a besoin de monde qui a une idée contraire avec nous. En prélude avec 16 décembre 90. Je veux dire, thème qui a développé 16 décembre 90, 16 décembre 2025. Qui côté nous y est? 16 décembre 90. 16 décembre 2025, qui côté nous y est? Alors, on attend tout le monde. Le téléphone, si on a besoin de plus de détails, c'est téléphone PAM 514-576-1253. 514-576-1253. Et Café Nol, on attend tout le monde. Et puis, entrez à gratis, chéri. Et on a bien un brevet café, thé en dedans. Et pour nous amuser, non. Nous souhaitons pour soirée ça. On a fait soirée, une soirée de l'amitié, de Zamitaï. Même là, nous avons une idée contraire. Même t'as ramené nous vini. Brasser l'idée ensemble, puis qui est dénoué aujourd'hui à la. Merci d'avoir tout.
Mode de vie, actualité, mieux-être, désir au féminin, opinion et débat. Elle vous donne rendez-vous à tous les vendredis pour quotidiennement avec Elisabeth de 9h du matin à midi. De taille comme un chien, mon ami toi, reste avec moi tout le temps.
Que vous soyez afin d'Aznavour, Gainsbourg, Ferrat, Dalida, Gréco, Beco, Fugain, Barbelivien, Ferré ou Hallyday, si vous avez un faible pour Moustaki, Mouskouri, Lenormand, Montan, Lama, Sheila, Barzotti,